de Cordoue en Espagne. Fabrice qui nous fait vivre ses demi-finales de la Coupe Davis tout l'après-midi.
Studio Théâtre.
Ce soir, dans Studio Théâtre, deux femmes de caractère.
Laure Adler.
Ève Ancer, auteur des monologues du vagin. Et Emmanuel Laborit, et portrait d'un jeune homme, René Deobaldia.
Studio Théâtre. Ce soir sur France Inter, à partir de 23h. France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, vous retrouvez Daniel Mermet. C'est là-bas si j'y suis.
Libyen, Libyenne. Vous souhaitez vraiment remercier le peuple français, la France, mais gardez-le, ce sera la meilleure façon de nous remercier.
Si vous voulez épater vos voisins, votre famille, votre petite amie ou votre petit copain, lors d'une communion, un dîner, un anniversaire, un truc comme ça, j'ai un truc infaillible. Il faut inviter Nicolas Sarkozy. Et pour inviter Nicolas Sarkozy, c'est pas compliqué. Vous appelez l'Élysée et vous dites « Oui, bonjour, je suis intéressé pour acheter un Rafale. » Vous savez, les avions qui volent. Et là, c'est réglé comme du papier à musique. Nico va débouler à la maison. Et alors là, vous épatez tout le monde. Là, vous gagnez à tous les coups. Je vous assure, pour un anniversaire ou un repas, ça fait un effet terrible. Bonne chance.
Bonjour, c'est... Petit message du Café Repère de Nantes qui reprend cette année, et c'est ce soir, vendredi 16 septembre, que nous vous donnons rendez-vous, à partir de 19h30, au Méliès. Le thème pour cette rentrée sera l'ignorance. Vaste sujet, hein. Nous vous en dirons plus ce soir, mais tout semble provenir d'un cours de philosophie, et de ce qu'on peut en dire plus concrètement, d'un point de vue social, politique et bien sûr sensible. À ce soir, donc.
Donc, pour les primaires socialistes, le candidat des sondages, c'est François Hollande. Jusqu'au 14 mai 2011, le candidat des sondages, c'était DSK. Mais on a eu aussi Nicolas Hulot, candidat des sondages pour les primaires écolo. Et en 2006, c'était Ségolène Royal pour celle du PS, déjà. Autrefois, Mitterrand n'avait pas été désigné par les sondages pour affronter De Gaulle et Giscard, ni Jospin pour défier Chirac. C'est donc une nouveauté depuis quelques années. Comment le reconnaît-on? Premièrement, le candidat des sondages est une exclusivité de gauche. Les sondeurs ne demandent jamais aux citoyens de choisir le meilleur candidat de l'UMP entre Sarkozy, Copé ou Fillon. Deuxièmement, le candidat des sondages est toujours le candidat de gauche le plus compatible avec les intérêts des milieux financiers et du monde des affaires, étant bien entendu que ces financiers possèdent et les instituts de sondage et les grands médias qui vont commenter largement ces mêmes sondages. Et troisièmement, les questions concernant le candidat des sondages ne doivent jamais mettre en doute sa légitimité ou ses compétences. On ne lira par exemple jamais la question suivante, sachant que sous la Ve République, tous les présidents élus avaient auparavant occupé au minimum des fonctions de ministre. Pensez-vous que ce soit un avantage pour François Hollande de n'avoir jamais exercé une responsabilité gouvernementale? Et c'est ainsi que même en démocratie, un pouvoir médiatique quasi totalitaire tente souvent avec succès d'imposer les choix de la classe dominante, même et surtout aux électeurs de gauche.
C'est Paul de Clamcy. Je voudrais poser une question à M. Lordon. Edgar Morin, dans son livre intitulé « La voix », page 102, écrit, je cite, « La somme des PIB des pays de la planète s'élève à 54 000 milliards de dollars. Le total des capitaux spéculatifs passant d'une place financière à une autre est estimé à 540 000 milliards de dollars. Question. Que pense M. Lordon de ces chiffres? Ces 540 000 milliards de dollars virtuels ne sont-ils pas à la base de toutes les crises financières passées, présentes et futures? Merci et bonjour à tous.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG, c'est Michel de Meaux en Seine-et-Marne. J'aurais aimé poser une petite question à Frédéric Lordon qui parle toujours de ce que ne disent pas les autres. Je voudrais savoir ce qu'est devenu l'OMC, parce que j'en entends plus parler depuis belle lurette. J'entends parler du FMI, de la Banque mondiale, etc., etc., toutes les grandes organisations qui sont plus ou moins responsables du bordel ambiant dans lequel nous sommes, mais je n'entends plus parler de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Voilà, donc j'aimerais avoir des nouvelles. Merci, salut.
Bonjour, bonjour. D'abord, une petite devinette. 150 économistes du FMI au fond de l'océan. Qu'est-ce que c'est ? Réponse, c'est un bon début. Deuxièmement, deux économistes se rencontrent. Le premier demande au second, tu comprends quelque chose à ce qui se passe ? Le second lui répond, c'est facile, je vais t'expliquer. Expliquer, moi aussi je sais le faire, répond le premier. Je suis également économiste. Mais est-ce que tu comprends ce qui se passe ? C'est ça ma vraie question.
Voilà, merci pour tous vos messages, chers AMG. Si vous saviez dans quelles conditions vous êtes écoutés aujourd'hui en direct depuis la fête de l'humanité avec un public très sympa et qui rigole sur un message sur deux. Merci à tous pour ces messages. Au 01 56 40 37, je rappelle le numéro du répondeur de là-bas. Si j'y suis, vous avez compris, on est en direct depuis la fête de l'humanité à la Courneuve, près de Paris. C'est effectivement un exploit que de parvenir jusqu'ici, mais nous sommes, vous le savez, à là-bas, si j'y suis, des grands reporters et nous avons réussi à partir de la maison de la radio et arriver jusque-là. Ce n'est pas un mince exploit. Alors, vous avez entendu les questions que les auditeurs ont spontanément posées à Frédéric Lordon. On a décidé cette année de passer une heure entière avec Frédéric Lordon, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes des fidèles de là-bas, si j'y suis, si vous êtes des fidèles du monde diplomatique, si vous vous intéressez aux questions économiques, financières, mais avec un certain regard hétérodoxe, qui est le regard de Frédéric. On va donc passer cette heure ensemble. Vous allez pouvoir, cher public, lui poser des questions et vous allez voir, Frédéric Lordon a réponse absolument à tout. Évidemment, on va essayer de voir un petit peu où on en est. Il y a un philosophe espagnol qui disait « qu'est-ce qui se passe ?» Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on va voir si Frédéric s'en sort mieux. Et puis on a un orchestre, évidemment, là-bas si j'y suis, il y a toujours de la musique. Et l'orchestre, c'est les Chevals, que je vous demande d'applaudir avant même qu'ils aient joué. Voilà, donc on est installé, il fait un temps magnifique ici. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et on démarre.
Bonjour les AMG, on ne pourra pas tous être à la fête de l'UMA. Alors ce samedi 17 à Lille-sur-Tarn, entre Toulouse et Albi, se tiendra une journée entièrement consacrée à Marina Leda. Toi Daniel et ton équipe, vous avez réalisé une émission sur ce village d'irréductibles andalous. Là-bas depuis 32 ans, un vrai partage des richesses, une vraie démocratie participative et bien d'autres avancées sociales. Pas de prison, pas de police. Pour en parler, Juan Manuel Sanchez Gordillo sera présent toute la journée dès 10h. Débats et conférences avec vous, parmi nous et avec des élus. Deux films sur des expériences autogestionnaires seront diffusés en Espagne et au Sri Lanka. Les entrées sont libres et gratuites. Alors venez ce samedi 17 à la salle des fêtes, place de la mairie de Lille-sur-Tarn. Vous rendre compte, non pas qu'un autre monde est possible, mais qu'un autre monde existe.
Salut les AMG, c'est Jean du repère de Marsac-sur-Tarn. Nous aussi, on va se faire une petite fête de l'humain à notre manière. Pour cette deuxième saison, le repère de septembre se passera exceptionnellement en dehors des portes de la typique. Nous vous donnons rendez-vous ce soir, vendredi 16 septembre, sur la place de la mairie de Las Grais à 18h. Françoise nous convie à une visite de son jardin. Le tout sera suivi d'une auberge espagnole. Venez avec un plat qui sera partagé et qui nous donnera l'occasion d'aborder la nourriture et la mondialisation, du sol à l'assiette. Albigeois, Gaillacois, habitants des environs, vous êtes les bienvenus ce soir sur la place de la mairie de Las Grais à 18h. Covoiturage organisé. Plus de renseignements sur le blog des repères du Tarn. Tapez là-bas dans le Tarn sur votre moteur de recherche. C'est en haut de la page. Adieu.
Oui, salut Daniel. Petite réflexion sur le débat hier à la télé. D'ailleurs, pour qu'un débat de gauche soit intéressant, il aurait peut-être fallu qu'il y ait des gens de gauche quand même pour que ce soit intéressant. C'est Bruno de Montpellier. Allez, salut.
À quelques secondes du direct de notre émission favorite, rappelez-vous l'année dernière, sur cette même fête de l'humanité. Parmi les invités, sur le stand de Radio France, se trouvait Aurélie Trouvé, d'Attaque, enceinte presque à terme, pour ceux qui étaient parmi le public. Et Bernard Friot qui nous dévoilait l'enjeu des retraites en nous donnant plein d'espoir. Cette année, vous faites sans moi. En 18 ans, j'ai manqué qu'une seule fois déjà. Mais si je pouvais donner envie à ceux qui n'y sont jamais allés, je leur dirais que toutes les parcelles de convivialité, d'échange, de liens, d'espoir que l'on trouve disséminées dans notre vie de tous les jours, pas tous les jours c'est vrai, sont rassemblées ici durant 3 jours dans un espace immense. Je vous dirais aussi que quel que soit le temps qu'il y fait, on en revient requinqué pour toutes les luttes à venir. Ça, ça fait du bien. Que tu aimes les débats, la musique, les livres, le théâtre, les expos, la bonne bouffe des quatre coins du monde, tu seras comblé. N'oublie pas d'aller assister au débat de Monique et Michel Pinson-Charlot. Ils seront demain, samedi, à 14h30, sous le chapiteau des Amis de l'Humanité, pour animer le cirque du Fouquet's. Ça promet. À tous les amis, je dis bonne fête. Promis, l'année prochaine, tous ceux des repères, on organise les repères décentralisés sur place. D'ici là, fête de l'humain, fête de l'humain. Allez là-bas si j'y suis. Moteur!
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec toute l'équipe, avec Frédéric Lordon, avec les chevals. Une heure à la fête de l'humanité pour se requinquer. Cheval, en direct de la fête de l'UMA. Magnifique, merci, merci. Alors maintenant, Frédéric Lordon, au boulot. On veut tout savoir, on veut tout savoir. Je vais poser, si vous voulez bien, une ou deux questions à Frédéric. Et ensuite, un micro va être disponible dans l'assistance. On n'en a qu'un, soyez patients, vous êtes nombreux. Mais on va s'arranger. Et vous pourrez directement poser vos questions à notre invité Frédéric Lordon. Première question, Frédéric. Que se passe-t-il?
On ne sait pas ce qui se passe.
Mais qu'est-ce qui se passe? Plus qu'il fait clair, plus qu'il fait clair, moins qu'on y voit.
C'est à peu près ça. Alors, je voudrais faire un préalable méthodologique. Lorsqu'on est confronté à des faits sociaux bizarres, il faut se rendre aux hypothèses psychiatriques en tout dernier ressort, quand on a épuisé toutes les autres. Mais, malgré tout, il faut bien dire que toute cette affaire a tous les aspects d'une histoire de fou. Et très honnêtement, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Hein. Donc j'essaye de résister, de ne pas me rendre à cette hypothèse, mais tout m'y porte. Parce que voilà, bon, on a, je vous rappelle la séquence, hein, en quelques mots. La finance somptueuse et arrogante, c'est manger un gadin qui fera date à l'histoire de l'échelle du capitalisme. Mais la finance n'a jamais le bon goût de choir seule, c'est-à-dire qu'elle emmène tout le monde avec elle. Il s'en est suivi une récession carabinée, avec une explosion du chômage. On a sauvé les banques grâce à l'action des banques centrales et puis aussi en passant aux frais du contribuable. Et les banques se sont carapatées, santé refaite, en s'estimant quittes après avoir remboursé leurs prêts auprès de l'État français. Sauf qu'elles nous ont laissé derrière la contraction du crédit, la récession, l'explosion du chômage, l'envolée des déficits et des dettes, et les plans d'austérité, c'est-à-dire double dose pour le chômage. Et nous en sommes là, avec des plans d'austérité qui sont généralisés dans toute la zone européenne et qui n'ont rigoureusement aucune chance d'aboutir aux objectifs qu'ils se sont donnés. Alors le cas typique, c'est la Grèce, évidemment. La pauvre Grèce, martyr de la politique économique européenne, est en train de sombrer sous nos yeux, et plus on vient à son secours, plus on lui administre de quoi la tuer définitivement. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, si vous voulez, il y a de la part de la politique économique une persévérance dans l'erreur qu'une ancienne maxime latine, en son temps, avait qualifiée de diabolique. C'est-à-dire, on fait un premier plan de secours, on serre la vis comme c'est pas possible. Évidemment, il se passe l'exact contraire de ce qu'on attendait. C'est-à-dire, la récession est tellement violente que les recettes fiscales se contractent plus vite qu'on ne coupe les dépenses. Et donc, les déficits continuent d'augmenter et les dettes d'exploser. Moyennant quoi, la Grèce ne peut toujours pas plus payer que par le passé. On revient à son chevet avec un deuxième plan de secours qui rend le plan d'austérité encore plus dur que par le passé. Bon, je veux dire, on peut prolonger la série encore autant qu'on veut, hein. Il se passera ce qui est déjà annoncé, c'est-à-dire que la Grèce fera défaut. Et alors, à partir de là, si la Grèce fait défaut, on entrera en terres inconnues. Là, on va passer le 38e parallèle.
Alors, ça, c'était la première question. Je pense qu'on va revenir dessus, qu'on va développer sur la rigueur, on va développer sur la règle d'or, mon cher Frédéric, sur cette culpabilisation générale. Oui, on a trop dépensé, il faut qu'on se serre la ceinture, soyons solidaires. On a vu de richissimes patrons récemment dire « nous, on va mettre la main à la poche dans un esprit de solidarité nationale pour ce qui concerne la France ». Mais ce thème-là, je suis sûr que nos amis ici présents vont revenir dessus. Il y a un autre axe sur lequel j'aimerais qu'on aille, c'est le thème de la démondialisation. C'est un mot qui est apparu récemment, et puis c'est quand même aussi une idée, et c'est une idée qui vous convient. Est-ce que c'est la solution? Qu'est-ce que vous entendez par démondialisation? Parce que j'ai l'impression, à entendre ce mot dans diverses bouches, que déjà, il faut repréciser de quoi il retourne.
On pourrait présenter à nouveau ce débat de manière assez simple. C'est ce que j'appellerais volontiers la dialectique du cadre. Le clivage politique n'est pas du tout celui que vous entendez dire dans le débat médiatique ordinaire. Il y aurait la droite et il y aurait la gauche. Le Parti socialiste serait la gauche qui serait contre la droite, etc. Évidemment, la ligne ne passe pas du tout là, hein. Le véritable clivage, il passe entre ceux qui sont implicitement d'accord et d'un accord inavouable pour travailler à l'intérieur du cadre, et ceux qui, d'autre part, veulent sortir du cadre et le refaire. Donc ça, c'est la différence fondamentale. Et c'est ça la différence entre la droite et la vraie gauche. La vraie gauche, c'est celle qui veut refaire le cadre. Or, écoutez les propositions du Parti socialiste officiel, celles de François Hollande ou de Martine Aubry, vous n'y verrez strictement rien qui soit de nature à altérer significativement les contraintes structurelles qui forment le cadre en question. Et alors, ces contraintes structurelles, c'est quoi? Elles sont au nombre de trois, donc si vous voulez, le cadre est triangulaire. Premièrement, le régime du commerce international, c'est-à-dire le libre-échange, et on y incorporera également la liberté des investissements directs, c'est-à-dire ce qui très concrètement autorise les délocalisations. Il y avait une question qui demandait, on n'entend plus parler de l'OMC, comment va-t-elle? Elle va bien, merci, hein. Juste, elle n'est pas en première ligne parce que le sujet de l'heure, c'est la finance, les dettes souveraines, etc. Mais l'OMC continue son petit bonhomme de chemin, hein, je veux dire, en dépit de tout. Et de temps en temps, on sort le lamy pour nous dire, attention, ne cédez pas aux tentations protectionnistes, ça serait le retour à la xénophobie, et à la guerre. Donc premier point, premier côté du cadre, le régime du commerce international. Deuxième côté du cadre, la finance folle dingue, c'est-à-dire celle qui a donné l'accident des subprimes, la libéralisation complète des marchés de capitaux, la licence des institutions financières de faire ce qu'elles veulent et de prendre en otage les pouvoirs publics et les corps sociaux tout entiers pour leur venir en aide quand elles se sont pété la binette. Troisième côté du cadre, le modèle de politique économique européen, tel que il a délibérément organisé la surveillance des politiques économiques nationales par les marchés financiers. Et alors là, c'est notre actualité présente, hein, si vous voulez, c'est le fait que les marchés financiers et les créanciers internationaux sont devenus les véritables décideurs en dernier sort des orientations des politiques économiques. Je veux dire, comme vous savez, hein, nous faisons la politique économique qui convient aux investisseurs et aux agences de notation. Voilà. Donc c'est ça les trois côtés du cadre. Bon, voulez-vous rester dans le cadre ou voulez-vous sortir du cadre? C'est la seule et unique question qui soit vraiment significative du point de vue du débat politique à venir. Et démondialisation est l'autre nom de la sortie du cadre.
Alors, est-ce que démondialisation, ça veut dire protectionnisme un peu, beaucoup? Quel protectionnisme? Dans quelles limites?
Démondialisation, ça veut dire toutes les choses, ça veut dire le contraire de toutes ces choses que j'ai énoncées à l'instant. ça veut dire oui, revenir sur le régime de libre-échange généralisé, parce que on ne peut pas accepter d'un côté de mettre en concurrence de plein pied les salariés des sociétés développées qui se sont parvenues à un niveau où elles ont les moyens de se payer un état social, éventuellement un commencement de soucis environnementaux, etc., et des salariés qui sont dans des économies en tout début de développement, avec des coûts salariaux massacrés, une protection sociale inexistante, une préoccupation environnementale aux abonnés absents, etc. Je veux dire, les différences de standards socioproductifs entre ces modèles économiques sont si abyssales que cette concurrence est un leurre. Alors, ce que je voudrais dire surtout, c'est que la notion de protectionnisme comme opposé radical du libre-échange est mal construite à souhait. Je veux dire, sous couleur de libre-échange, je soutiens que nous vivons actuellement dans un modèle complètement, dans un régime de commerce international qui est complètement protectionniste, mais qui est d'un protectionnisme inavoué. Car ce que le protectionnisme, ou ce que le libre-échange officiel surveille, ce sont simplement les conditions commerciales, mais sans jamais s'intéresser aux différences structurelles entre les économies, structurelles ou monétaires d'ailleurs. Je veux dire, lorsque la Grande-Bretagne a dévalué la livre de 30%, est-ce que c'est pas du protectionnisme, ça? Lorsque les salariés roumains sont payés à 300 euros par mois contre des salariés français au SMIC, est-ce que c'est pas un protectionnisme de fait? Lorsque les salariés de je ne sais pas quel autre pays sont embarqués dans un modèle de développement capitaliste qui n'a aucun état d'âme pour massacrer la nature et qui refuse d'acquitter les coûts environnementaux correspondants, est-ce que c'est pas du protectionnisme, ça? Donc le protectionnisme est partout sous couleur de libre-échange. Nous n'avons donc pas le choix entre le libre-échange, guillemets, et le protectionnisme, d'autre part. Nous avons le choix entre différentes formes de protectionnisme, dont l'une est inavouée, souterraine et particulièrement insidieuse, et où l'autre est raisonnée, publique, et elle pourrait très bien être modérée dans ces dispositions. Donc voilà, il faut rectifier un peu les termes de ce débat. Donc ça, c'est le premier point. Et également, par contraposition, démondialiser, c'est prendre le contre-pied des deux autres côtés du triangle, hein. C'est-à-dire revenir sur la mondialisation financière, revenir sur le modèle de politique économique européen, c'est-à-dire en particulier sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, etc., etc. Mais là, on voit bien qu'il y a loin de la coupe aux lèvres.
Oui, c'est ça, voilà. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Quelle est aujourd'hui la traduction politique de ce que vous dites? On est dans une année électorale. Est-ce qu'il y a, parmi les candidats ou parmi les partis qui se présentent et qui débattent, on a vu avec quel talent, certains ou certaines qui sont sur qui emboîtent vos pas, vos idées ou pas du tout?
C'est pas difficile, hein. Il y en a deux. Je peux les nommer sans avoir l'air de les endosser, j'espère, hein. C'est Montebourg et surtout Mélenchon. Alors il faudrait poser la question à Besancenot, mais également, hein, il aurait peut-être des choses à dire sur le sujet. Mais oui, voilà, c'est les deux qui disent des choses significatives sur la sortie du cadre. Et ça, c'est une première, hein. Je signale que c'est la première fois qu'il se trouve des candidats à la fonction présidentielle dans le paysage politique pour reformuler le problème en ces termes. Problème qui avait été tricard pendant quasiment 25 ans. Donc c'est quand même, voilà, il se passe quelque chose, si vous voulez, mais l'histoire progresse lentement. Elle progresse lentement, ceci étant, la finance, qui est bonne fille, l'aide à avancer un peu plus vite. Parce que c'est ça le charme, hein, dans toute cette affaire, si vous voulez, c'est que, enfin, on se console comme on peut, hein, mais c'est que la finance, qui est extraordinairement toxique pour les corps sociaux, a aussi pour propriété intéressante d'être capable, dans certaines circonstances, de s'autodétruire fatalement. Et c'est un peu vers ça qu'elle est en train de se diriger. Alors évidemment, à chaque fois, on la rattrape, si vous voulez. Elle était dans la parfaite autodestruction en 2007-2008. Mais les États sont venus à son secours. D'un certain point de vue, et je le redis, même si je sais que c'est une question éminemment controversée, les États n'avaient pas tort de le faire. Leur très grande faute, et c'est même quasiment un crime...
Là, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, là.
Oui, je sais, oui, oui, oui. Leur très grande faute, c'est d'être venu au secours de la finance sans la moindre contrepartie. C'est-à-dire tout simplement de la remettre sur les rails et hardi petit, c'est reparti pour un tour. Bon, alors là, les choses vont probablement changer parce que nous sommes en train de nous taper un deuxième service de crise financière de force 10. Je veux dire, si ça se trouve, Lehman Brothers sera un aimable pique-nique à côté de ce qui est en train de se préparer. À ceci près que désormais les États sont aux abonnés absents, puisque vous avez compris, le problème vient des dettes souveraines. Les États sont rincés. Donc il ne faudra pas compter sur eux pour venir sauver les banques cette fois-ci. Qui le pourra? Il ne reste plus qu'une seule institution qui soit capable de le faire. C'est une banque centrale. Qu'est-ce que nous avons comme banque centrale sous la main? La Banque Centrale Européenne, le veut-elle ? À l'évidence, non. Ah, mais alors, dans ces conditions, il faudra pas qu'on se laisse crever la gueule ouverte, parce que je vous signale que la ruine complète du système bancaire, et c'est ça qui nous menace, hein, par contagion de proche en proche, à partir d'un éventuel défaut grec. La ruine du système bancaire, je me ne lasse pas de le redire depuis des années, c'est le retour au jardin potager en 5 jours. Et pour une raison extrêmement simple. Les banques, le système bancaire sont, de fait, les conservateurs des encaisses monétaires du public et les conservateurs d'un autre bien public vital pour la société qui est l'intégrité du système des paiements. Lorsque les banques sont toutes en ruine, vous voulez faire vos courses ? La carte bleue, pas possible. Les banques sont écroulées. Les chèques, pas possible. Le distributeur à billets, pas possible. Il vous reste le liquide que vous avez dans la poche. Je vous garantis que vous ne tiendrez pas longtemps comme ça. Donc c'est le retour à l'état de nature et c'est pas beau à voir. Donc il faut qu'une banque centrale, puisque c'est la seule institution qui reste disponible, vienne retaper les banques, mais évidemment, cette fois-ci, pas pour les faire repartir comme à l'identique, c'est-à-dire moyennant une refonte complète et radicale de toutes les structures bancaires et financières. Et là-dessus, il y a quelques idées, hein, croyez-moi. Alors, elles sont pas dans les têtes de ceux qui nous dirigent. Si la Banque Centrale Européenne ne le veut pas, il faudra qu'un groupe d'États européens se forme, un sous-groupe de l'euro, qui se dote de sa Banque Centrale à lui, en lui donnant mandat explicite de le faire. Et si ce groupe-là ne se forme pas lui-même, alors il faudra le réenvisager sur la base d'une économie monétaire et financière renationalisée.
Alors je vous propose un petit repos avec les chevals qui sont en train de méditer et de se demander ce qui leur arrive et de prendre des notes. Un petit repos avec les chevals pour digérer tout ça et après les questions du public à Frédéric Lordon. Voilà, vous ne le voyez pas forcément dans votre transistor, même si vous approchez l'oreille de votre transistor, vous apercevez les chevals et vous voyez qu'ils jouent de la conque parmi les instruments.
Thank you.
Merci, les chevals. Les chevals. En direct depuis la fête de l'humanité. Vous êtes sur France Inter, c'est là-bas si j'y suis. On continue avec notre Frédéric Lordon, qui est aussi, vous le savez peut-être, un poète, en tous les cas un écrivain classique, un auteur de théâtre. Nous sommes si tenus par les liens du crédit, chacun étant aux autres une contrepartie, que le défaut d'un seul frappe tout alentour, en fait chuter cinq autres, qui chacun à son tour, ça c'est un banquier qui cause, et l'autre dit, les liens de la finance nous rendent solidaires, l'effondrement devient accident nucléaire. J'ai pris ces quelques vers au hasard. C'est une pièce écrite par Frédéric Lordon, qui s'intitule « D'un retournement l'autre », comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes, et en alexandrin, et qui se joue un petit peu partout, hein, Frédéric ?
Il y a plein de petites lectures par de petites troupes dans de petits endroits, et c'est bien comme ça que j'imaginais que cette pièce vive.
Les affects et les concepts, on pourrait parler de ça tout à l'heure. Qui a des questions dans le public ?
Moi, j'ai pas de questions.
Ah, c'est bien, oui.
Je suis d'accord à 99,5%.
Ah, le demi qui nous intéresse, c'est le voilà.
Avec le monsieur. Oui. Ici on dit camarade.
Oui, oui, oui.
Bon, ah
oui,
je sais pas si c'est un camarade, je lui dis. Moi, je suis d'accord avec lui. Le gros problème, l'émission de Bermet, je le suis régulièrement. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que la question n'est pas. Je suis convaincu avec lui. Mais qui est convaincu avec lui dans la mesure où on n'écoute pas ce qu'il dit?
Ah oui.
Ah oui. Parce qu'en définitive. Où on l'entend, lui? Hein? Très peu.
Bah là, on l'entend quand même.
Non, je dis où. Ah, ici, où à la fête de l'humain, tout le monde s'entend. Ça me semble évident.
Oui, oui.
Mais alors, c'est le problème. Et moi, la question que je pose, c'est de dire comment on fait pour que ces gens, ces écrivains, ces politiques, puissent parler à la télévision, à la radio. Les médias, ça devient l'opium du peuple. Je le dis comme je le pense. Heureusement qu'il y a des missions comme vous. Non, mais ça blague. Regardez, pardon, j'ai écrit trop fort. J'ai un langage puissant. Mais le problème, c'est que, regardez la fête de l'humain. Qui a parlé de la fête de l'humain? Très peu. Qui a parlé du débat Mironton de nos amis sociaux-démocrates? Tout le monde. Donc, moi, je pense comme question que, il faudrait que lui, comme d'autres, passe régulièrement dans les médias pour des débats. C'est dans l'air.
Merci. Alors, non, merci, réponse.
Non, mais j'arrête parce que
merci, j'ai ennuyé. Merci, ouais.
Merci d'avoir répondu. Hein.
Merci. Demain soir, Frédéric Lordon, 20h de TF1.
Ben oui. Et c'est le jour de Claire Chazal, sinon j'y vais pas. Monsieur, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, si, je sais un peu quoi vous dire, parce que cette question, je me l'entends poser régulièrement. Pour être tout à fait juste, sachez qu'il m'arrive de recevoir des invitations à ce genre de cirque. Et je n'y vais presque jamais, pour une raison extrêmement simple, si vous voulez, c'est que de me retrouver à 1 contre 6 avec un Yves Calvi et 5 Eli Cohen tout autour... C'est un combat perdu d'avance qui ne fait pas avancer notre cause. Donc, y aller, c'est une chose qui est très désirable en soi, mais ce qui est encore plus désirable, c'est d'y aller dans des bonnes conditions. Or, toutes les évidences dont le débat public a été imprégné depuis 2 décennies sont contre nous. Vous comprenez ? À l'un de ces pitres, il suffit de 2 secondes et demie pour sortir une grosse énormité, mais que tout le monde a tellement entendu qu'on la prend au sérieux. Du genre, mais c'est bien évident, je veux dire, les déficits se creusent, il va falloir réduire les dépenses sociales, etc., etc. Vous n'êtes pas protectionniste par hasard. Non, parce que le protectionnisme, c'est la guerre. Et vous ne voulez pas être flexible. Et la retraite à 60 ans, vous ne voyez pas que la population vieillit, etc. Donc, et contre chacune de ces couillonnades, il faut au minimum 20 minutes pour argumenter. D'abord pour défaire des questions à la con, reposer des questions un peu plus intelligentes, et puis tenter d'y répondre.
Merci. Une autre question.
Bref. Et donc, Si vous voulez, ça ne rime pas du tout, hein, mais c'est médiatisation piège à con. Sauf dans quelques endroits très particuliers où on a le temps, comme ici, où alors je suis abonné à mes ghettos, donc le monde diplomatique. Quand je lâche une proposition, disons centriste, enfin comme fermons la bourse. Il me faut deux pages de monde diplomatique pour m'en expliquer minutieusement, afin de ne pas être renvoyé au registre de l'hurluberlugauchiste qui dit n'importe quoi et qui est irresponsable. Or, au bout des deux pages, je prétends avoir avancé quelques arguments. Il me faut une demi-heure minimum pour expliquer ça dans n'importe quelle radio ou dans n'importe quelle télé. Et on me la donne pas, alors je n'y vais pas. Moyennant quoi, voilà, la morale de l'histoire, c'est ça, hein, si vous voulez. Mais ça, on va y revenir sans doute. Nous ne défilons pas aux bons endroits. Il ne faut pas aller défiler entre République et Nation. Je vous garantis que ça ne sert à rien. Moi, je connais le trajet, je l'ai beaucoup fait. Entre République et Nation, il n'y a pas un ministère, il n'y a pas un siège de banque, il n'y a pas l'immeuble du MEDEF, et il n'y a pas un immeuble de presse ou de télévision. C'est pas là qu'il faut aller. Donc, si vous voulez, voilà. Et moi, c'est ça qui me consterne un peu, je dois vous dire. C'est donc les syndicats de bonne volonté, sans doute, je vais me faire ramasser à la volée là, hein, surtout ici, hein, je le sais, hein, mais tant pis, je le dis. Je veux dire, je sais faire la différence, hein, entre la base et les directions confédérales. Je sais faire la base entre Conti et Montreuil. Vous voyez, je suis pas complètement con, hein. Mais voilà, il y a, si vous voulez, il y a une espèce de passion pour le secondaire, vous voyez, une passion pour les endroits où il ne se passe rien et où on ne fera de mal à personne. Alors non, j'ai vu les mots d'ordre de la journée d'action d'octobre. Les 35 heures, la sécu, les conventions collectives et les libertés syndicales. Ça m'a donné envie de pleurer. C'est pas que ces mots d'ordre-là soient non pertinents, c'est qu'ils sont secondaires au sens exact suivant. C'est qu'il ne renvoie pas aux causes principales qui déterminent ces choses-là. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans la rue et brailler les 35 heures, la sécu, les conventions collectives, tout ce que vous voulez. Lorsque vous n'avez pas changé le cadre dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez aller vous faire voir chez Plumeau. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc. Okay.
Alors, une autre question, monsieur, une question.
Question pour monsieur Lordon. Vous êtes à l'origine et vous militez depuis plusieurs années pour le SLAM. Ouais. Un impôt couperet pour limiter la rapacité des actionnaires. Je voulais savoir ce qu'il en était à l'heure actuelle, vu que les États en période de rigueur cherchent à récupérer de l'argent. Est-ce que votre idée avait avancé, avait eu un écho?
Elle a un succès colossal. je peux vous le dire.
Le SLAM.
Alors, le
Frédéric.
SLAM. Alors, en deux mots, si vous voulez. Alors, vous voyez, c'est ça. Là, il faut faire une petite distinction analytique. Parce que lorsqu'on dit la finance, c'est une espèce de grand fourre-tout dans lequel il y a un peu tout et n'importe quoi. Alors, si on veut mettre un peu d'ordre là-dedans, il faut commencer par distinguer deux finances. Il y a, disons, la finance des marchés de produits dérivés. Je rentre pas dans la technique de la chose, mais c'est à ça que faisait référence l'auditeur qui a laissé un message sur le répondeur. Vous savez, les 54 000 milliards de dollars de PIB et les 540 000 milliards de produits financiers qui tournent autour de la planète. Ça, c'est la finance des produits dérivés. C'est celle qui nous a valu la crise des subprimes. Et c'est aussi dans cette sphère financière-là qu'est en train de se nouer la crise des dettes souveraines. Il y a une autre finance qui est très différente en genre, qui est ce qu'on pourrait appeler la finance actionnariale, celle qui passe par les marchés d'actions, c'est-à-dire stricto sensu la bourse. Alors, la finance des actionnaires, des propriétaires financiers des entreprises, la finance qui pèse sur les conditions de vie des salariés, la finance qui exige les 15% de rentabilité des capitaux propres, les augmentations indéfinies de productivité. Alors, cette finance-là, vous remarquerez que depuis 2007, on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins parce que c'est l'autre finance qui tient le haut du pavé et qui menace de nous faire tous couler. Bon, ça n'empêche pas que, comme l'OMC, cette autre finance continue son travail silencieusement. Et alors, c'est à l'époque, c'était en 2007, début 2007, la crise financière, celle de la première finance, n'avait pas encore éclaté, que j'avais proposé cette formule du SLAM, qui est un acronyme qui veut dire Shareholder Limited Authorized Margin, ça veut dire marge actionnariale limite autorisée, qui est un truc pour plafonner et ratiboiser fiscalement la rémunération des actionnaires. Si vous voulez, c'est l'équivalent fonctionnel de la proposition de Georges Marchais à la fin des années 70, qui l'appliquait à l'impôt sur le revenu, lui, et qui disait au-dessus de 40 000 francs, je prends tout. Ben là, c'est pareil. C'est au-dessus d'un certain pourcent de rentabilité pour les actionnaires, je prends tout. Alors, l'avantage de la chose, si vous voulez, c'est que c'est un prélèvement fiscal de type guillotine. Alors, c'est bien parce que là, ça laisse pas d'échappatoire, quoi. Et ça désarme absolument les incitations des actionnaires à pressurer toujours et davantage les entreprises, c'est-à-dire toujours et davantage, en dernière analyse, les salariés. Alors, au total, moi, j'ai une espèce de menu gastronomique anti-finance actionnariale. Donc, c'est un truc, et vous mangez à la carte selon votre appétit politique. J'avais une première mesure technique, mais qui les ferait un peu chier quand même. Mais donc c'était un truc sur la suppression de la cotation en continu. Je laisse ça de côté. Ça, c'est les akouski. La pasta, c'est le slam. Alors là, déjà, ça les ennuie considérablement plus. Et puis le plat de résistance, c'est fermer la bourse. Parce que si vous voulez, c'est ça l'idée, quoi. C'est que à la fin des fins. Mais il faudrait le temps d'entrer dans la démonstration et je ne peux pas le faire aujourd'hui.
Mais c'est sur le site de là-bas, si j'y suis, là-bas.org, où vous pouvez réentendre une émission où Frédéric explique pourquoi il faut fermer la bourse.
Donc on peut le dire, voilà. On peut le dire pourquoi il faut la fermer et pourquoi surtout elle est devenue une institution anti-économique et anti-financière. Qu'elle soit anti-sociale, on le savait déjà depuis très très longtemps. Mais elle est ces deux choses-là en plus. Quatrième, là c'est le dessert, c'est le truc qui fait qu'on sort vraiment rempli avec les prémolaires qui baignent. Le dessert, c'est la subversion radicale de la dévolution du pouvoir politique dans l'entreprise par la propriété financière. C'est-à-dire la subversion radicale de ce qu'on appelle le rapport salarial. Rapport qui veut que des dirigeants soient nommés par ceux qui sont les propriétaires des actions, qui commandent aux manants qui vont obéir. Donc, si vous voulez, là, moi, c'est la chose qui m'a toujours étonné, c'est que les rapports sociaux dans l'entreprise capitaliste sont des rapports qui sont formellement médiévaux. Je veux dire, des gens commandent et d'autres sont priés d'obéir. Et tout ceci est intimement articulé à la propriété financière actionnariale.
On est toujours en direct depuis la fête de l'humanité. Vous avez réussi quand même à poser déjà deux questions. Une troisième peut-être, monsieur, allez-y.
Tout à l'heure, vous avez défini le cadre, les trois du cadre, et ça se résume, vous m'arrêterez si je me suis trompé, c'est au capitalisme régulé. C'est-à-dire le capitalisme qui existait avant la crise de 29, après la crise de 29, keynésien. Or, je ne crois pas qu'on puisse retourner en arrière avec un système commercial régulé et avec un système financier régulé. Je pense que l'humanité va aller vers l'avant. Elle a vécu des dizaines de milliers d'années sans le salariat, sans l'argent, sans un quantificateur universel. Et maintenant, avec les avancées de la technologie, les événements dans le monde arabe nous ont montré que des gens de peu peuvent s'organiser et échanger des informations et pas de l'argent. Et je crois pas qu'on puisse rester, qu'il y a une solution possible dans le cadre de capitalisme régulé parce qu'il ne pourra pas se réguler. Il ne pourra qu'imploser et retourner à l'état de nature que vous... Moi, je l'appelle de tous mes voeux. On n'en mourra pas. Voilà.
Merci pour cette question.
Vous avez carrément un appétit d'ogre. Et c'est bien. Vous avez de belles dispositions. Et je comprends bien votre... Alors, à ceci près, il y a une petite erreur. Si vous voulez, oui, la sortie du cadre, effectivement, ce que j'appelle la sortie du cadre correspond, semble-t-il, à ce que vous appelez le retour à un capitalisme régulé. Et je m'entends régulièrement dire deux choses. Premièrement, mais finalement, refaire le cadre, c'est refaire le cadre à l'intérieur d'un cadre beaucoup plus large, qui est celui du capitalisme, et dont vous ne sortez toujours pas. Moyennant quoi, finalement, ce que vous proposez conduit à... remettre le capitalisme lui-même sur
un
les
autre
rails,
capitalisme
voilà,
possible
simplement en le faisant changer dans ses formes. Voilà. Et la deuxième chose qu'on m'objecte assez souvent, c'est que finalement la stratégie de sortie du cadre que je présente équivaut à une espèce de retour passéiste vers le fordisme qui avait prévalu dans les années 45 et 75. Alors à quoi je dis non pour deux raisons. Il ne s'agit pas de refaire le fordisme pour la simple et bonne raison que l'histoire ne repasse pas les plats. Et si, à l'évidence, il y aurait des éléments communs entre cette sortie du cadre que j'appelle de mes voeux et le capitalisme que nous avons connu pendant ces 30 ou 40 années d'après-guerre, notamment le fait que les banques seraient nationalisées sur une base beaucoup plus large, que les marchés financiers seraient réduits à leur minimum minimorum, que l'État retrouverait la souveraineté de sa politique économique, etc. Pour autant, il ne s'agirait pas de reproduire le passé à l'identique, et au moins pour deux raisons. La première, c'est que, je viens de vous le dire dans mon menu anti-actionnarial, il y a le dernier item qui est la transformation radicale du rapport salarial à un point tel qu'on ne pourrait peut-être même plus le qualifier de rapport salarial, puisque les entreprises, il faudrait même changer leur nom, les entreprises, c'est-à-dire les collectivités productives, seraient organisées sur des bases politiques tout autres. Or, si l'on tient ce rapport salarial pour le rapport social central du capitalisme, alors sa destruction représente, sinon la sortie complète du capitalisme, du moins une mutation d'une telle ampleur qu'on ne peut pas dire qu'on lui a fait simplement changer superficiellement de forme. Et la deuxième chose qui ferait la différence, c'est que, à l'évidence, et à l'encontre de ce qu'était le fordisme, il faut poser la question des contenus de la croissance et de leurs effets environnementaux. Ça, c'est, je veux dire, la chose est tout à fait évidente. Et on ne peut pas faire l'économie de cette question-là. Je suis pas sûr de répondre de manière aussi satisfaisante que vous le voudriez à votre question. Sur la question de l'argent et des rapports sociaux qui pourraient s'émanciper de l'argent, il nous faudrait 2 heures pour en parler. Donc je vais pas rentrer là-dedans, hein. Mais quand même, il y a des voies possibles pour mettre en œuvre quelque chose qui serait davantage que du rafistolage.
D'autres questions à Frédéric Lordon? Oui. Monsieur,
crise financière, aussi crise monétaire. Crise monétaire, certains prédisent la sortie de l'euro des Grecs, mais d'autres aussi parlent, des économistes parlent qu'une des solutions à cette crise monétaire, ça serait la sortie de l'Allemagne de l'euro, qui permettrait de faire une zone euro beaucoup plus équilibrée. Et moi, je voulais aussi rendre hommage ici à la fête de l'humanité au Parti communiste grec qui se bat comme un fou, le KKE, contre les conséquences sociales de cette crise. Et je crois que s'il y a un endroit où on doit le dire, c'est ici.
Merci.
Mais cher monsieur, on va croire que c'est un sketch et que nous avons répété, mais je fais partie des certains auxquels vous avez fait allusion qui plaident pour la sortie de l'Allemagne de l'euro. Je veux dire, en mars 2010, j'avais écrit un papier resté obscur dans une fin fond du blog du Monde diplomatique qui s'intitulait exactement « Ça n'est pas la Grèce qu'il faut exclure, c'est l'Allemagne ». Alors évidemment, les plus charitables me reprochent de faire de l'essentialisme anti-allemand et les plus méchants de faire dans le racisme anti-Bosch. Mais c'est pas du tout ça, je veux dire. Enfin, c'est une ineptie. Et c'est une infamie. Je veux dire, je me contente, si vous voulez, d'essayer de tirer un minimum d'enseignement de l'histoire. Il faut toujours se méfier de la transposition aux corps sociaux des catégories psychiques qui sont valables pour l'individu. Mais tout de même, on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme des traumas psychiques collectifs de la politique économique. Alors, par exemple, le trauma psychique constitutif de la politique économique américaine, c'est la Grande Dépression. Et un taux de chômage de 25%. Leur plus jamais ça, à eux, c'est ça. Ils ont du mal, hein, en ce moment. Mais c'est ça, leur objectif cardinal. Ils sont prêts à faire tout parce que le plein emploi est la condition dont ils croient qu'elle rend supportable un très haut niveau d'inégalité. Les Allemands, c'est autre chose. Leur trauma primal, c'est l'hyperinflation de 1923. Les valises remplies de billets, etc., etc. Et ça, ils s'en sont jamais remis. Et alors, rien n'est plus légitime que ça. Je veux dire, que le corps social allemand communie dans la croyance monétaire, je veux dire la croyance de la rigueur, de la stabilité nominale et de l'indépendance de la banque centrale réunie, c'est la chose la plus compréhensible du monde. Et nul ne saurait faire reproche à un corps social des épreuves de son histoire. Ce qui n'est pas légitime, c'est que l'Allemagne entreprenne de faire vivre tous les autres États membres de l'Union européenne sous le régime de ses idées fixes et de ses monomanies à elle. Or, ce sont ces monomanies qui ont accouché du cadre de politique économique européen, qui nous vaut ces austérités carabinées, qui nous vaut l'indépendance de la Banque centrale européenne et qui nous vaut, pardonnez-moi, le merdier dans lequel nous sommes actuellement. Donc, or, nous ne transformerons pas ça contre l'Allemagne parce que l'Allemagne s'y opposera. Mais alors qu'elle s'y oppose et qu'elle sorte de l'Union européenne ou qu'elle sorte de l'Union monétaire, et elle fera, pour moi c'est une trajectoire qui est d'une probabilité chaque jour davantage croissante, que l'Allemagne sorte avec ses satellites, les Pays-Bas, la Finlande, l'Autriche, éventuellement le Luxembourg, et que nous refassions une union monétaire après fracture de l'euro d'aujourd'hui, et que nous refassions une union monétaire sur des principes de politique économique qui ne soient pas ces contraintes absolument démentes dans lesquelles nous souffrons mort et passion actuellement.
D'autres questions, madame?
Oui. Ne trouvez-vous pas que le paradoxe, finalement, dans cette farce, dans cette grande farce à laquelle on assiste, c'est que nous en sommes un peu partie prenante, parce que ce système, il ne peut survivre que grâce à nous. Et moi, je voudrais dire que si on voyait un petit peu, au lieu de toujours faire appel aux institutions, ces institutions qui sont toutes un peu gangrénées, elles nous désapproprient de notre pouvoir et de notre liberté. Et quelque part, c'est dans notre responsabilité, dans notre petite part de responsabilité que résiste et notre pouvoir d'action et notre liberté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il y a des expériences qui se mènent en France. On n'en parle pas sur les ondes, etc. Mais dans un journal comme L'Âge de Fer, par exemple, on en entend parler. Il y a des créations de monnaies locales, des monnaies d'échange pour les, voilà. Donc, et par rapport à la démondialisation, moi je suis d'accord avec la sortie du cadre, bien sûr, mais pour inventer un autre cadre, hein, et relocalisation va avec la démondialisation, la relocalisation et aussi la reconscientisation de notre véritable force, parce que c'est nous qui produisons, c'est nous qui consommons et c'est nous qui créons. Ils ne sont rien.
Alors,
nous sommes tout.
Frédéric Lordon.
Chère madame, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. Nous sommes partie prenante de la situation et nous le sommes peut-être même davantage encore que vous n'imaginez. Pour pousser le paradoxe jusqu'à son comble, il y en a un qui est particulièrement pervers. C'est celui qui nous associe aux manœuvres mêmes de la finance. Et ça peut-être vous ne le savez pas, mais parce que la question à poser en définitive, c'est de savoir à quel carburant tourne la finance. Alors elle tourne au carburant du crédit. Bon, ça va sans dire. Mais elle tourne également au carburant de l'épargne. Et l'épargne, c'est qui? Mais l'épargne, c'est les salariés. L'épargne, c'est vous, c'est nous, c'est... Enfin, vous voyez. Donc, à notre corps défendant, nous sommes impliqués dans les affaires de la finance. Et c'est ça qui est assez terrible. C'est particulièrement pervers dans le cas de la finance actionnariale, où sans le savoir, les salariés collectivement s'asservissent à leurs propres frais. Puisque les fonds de pension qui leur imposent ces contraintes de gestion absolument affolantes ne font jamais que jouer avec l'épargne salariale qu'ils ont préalablement collectée. Moi, c'est la raison pour laquelle, n'étant pas un grand spécialiste de la tuyauterie financière des retraites, j'avais pris position lors du conflit de l'automne dernier, sur la base de ce seul argument que cette réforme préparant manifestement l'advenue des fonds de pension à terme, c'était là pousser le dernier verrou qui rendait définitive l'époque de la financiarisation et qui la rendait irréversible. Parce qu'à partir du moment où, par le jeu d'une épargne aussi massive que l'épargne retraite capitalisée, le salariat se trouve fondamentalement impliqué dans la finance, alors plus rien ne peut être entrepris contre elle. Tout simplement parce que vous vous voyez opposer immédiatement l'argument du genre, mais vous voulez vous en prendre aux banques, aux fonds de pension, aux hedge funds, etc. Mais c'est que vous voulez la mort de la retraite des vieux. Vous voyez, et c'est touché coulé, hein. Je veux dire, l'argument est valide. Donc, une fois qu'on a mis les fonds de pension en place, c'est fini, rentrez chez vous. Je veux dire, Dieu n'existe pas et tout est foutu. Bon. Alors, par ailleurs, vous avez raison, nous sommes également partie prenante d'un point de vue non pas financier, mais d'un point de vue politique. Mais alors là, j'aurais peut-être une marge de divergence avec vous. Oui, certes, les expériences...
Frédéric, court.
Ah, il faut que je fasse court.
Oui, oui.
Les expériences locales sont fondamentales, mais elles ne suffiront pas. C'est pas elles qui mettront un terme au régime de la finance, c'est pas elles qui mettront un terme au régime du libre-échange, etc. Ça passe par le haut. Ça veut pas dire que nous nous désintéressions de ça, mais ça veut dire que notre part dans ce changement-là vient d'ailleurs de l'action politique à grande échelle.
Merci Frédéric Lordon. Les chevals pour finir cette heure en direct depuis la fête de l'UMA. La conque, les conques. Voilà, c'était la basse, j'y suis en direct de la fête de l'humanité avec Frédéric Lordon. Les chevals. Vous retrouverez toutes les informations sur le site labas.org et sur le site de France Inter à la rubrique émission. À la technique aujourd'hui, Olivier Leroux, et Tanguy Le Corneau. C'est Bertrand Chemetour et Franck Adhérère qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Marina Touyez nous assiste et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur la boîte vocale de la basse IGSU au 01 56 40 37 37. On se retrouve tout à l'heure pour ce qui me concerne à 18h sur le stand des Mutins, ici même à la fête de l'humanité au forum des associations en face du village du livre. Voilà, les Chevals, leur dernier disque s'appelle Colis Suspect. Merci.
Les horaires de bus, de train ou de métro en temps réel, les transports accessibles pour tous, les bons plans covoiturage, ça vous dit ? Bougez autrement avec le numérique. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine européenne de la mobilité. Rendez-vous sur bougezautrement.gouv.fr et découvrez notre guide des applications mobiles et sites internet pour vous déplacer malin.
Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME. Sur France 5, on aime vous étonner. Tous les soirs en direct dans C'est à vous, Alessandra Sublet et ses chroniqueurs congient une personnalité à dîner. Ensemble, ils vous éclairent sur l'actualité pendant qu'un chef s'active en cuisine. Sur France 5, on crée et on partage tout, y compris le dessert.
France Télévisions, créée pour partager.
France Inter, partenaire de la Fête de l'Humanité, les 16, 17 et 18 septembre à La Courneuve. Le rendez-vous incontournable de la rentrée, avec plus de 80 pays représentés, une cinquantaine de concerts, Avril Lavigne, John Baez, Bernard Lavillier, The Tintins, et une centaine de débats qui en font la plus grande fête populaire de France. Et retrouvez le dimanche 18 septembre, Les Femmes, toute une histoire de Stéphanie Duncan, en direct et en public du studio Radio France à partir de 16h. Renseignements sur franceinter.fr.
Excellent après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h passées de 1 minute. Et les informations vous sont présentées par Delphine Simon. Bonjour.
Bonjour. La justice ouvre une enquête préliminaire dans l'affaire de Jeannie Longo. Il s'agit de vérifier les circonstances dans lesquelles le mari de la cycliste, qui est aussi son entraîneur, aurait acheté de l'EPO. Le parquet de Grenoble veut notamment savoir par quels moyens il aurait réussi à se procurer le produit dopant. 200 musulmans ont bravé l'interdiction de faire la prière dans les rues de la Goutte d'Or à Paris. Certains sont même ensuite allés à la caserne Boulevard Ney, dans le nord de la capitale. Une caserne prévue pour accueillir désormais les fidèles. Ils ont tenté de perturber l'office religieux. Il y a eu quelques incidents, mais aucun blessé. La prière a commencé avec une demi-heure de retard. Une information de notre reporter Saïd Makhloufi. Les responsables religieux parlent d'un phénomène isolé. À Marseille, une solution a été également trouvée pour permettre aux fidèles musulmans de faire leur prière, mais l'élu socialiste Patrick Menucci se dit stupéfait du choix du lieu du culte, un centre social dans le quartier de Belzins qui doit être bientôt rénové. Alerte à la bombe à Nantes, plusieurs centaines de personnes ont été évacuées à la mi-journée du centre Beaulieu à un grand centre commercial. Les clients et le personnel sont rassemblés sur le trottoir en attendant la fin des inspections. La gendarmerie est sur place à la recherche d'éventuels explosifs. En Pologne, les discussions n'avancent guère sur le nouveau plan de sauvetage de la Grèce. En échange d'un nouveau prêt, la Finlande a obtenu des garanties financières d'Athènes, une disposition qui fait des envieux. L'Autriche, les Pays-Bas et la Slovaquie demandent le même traitement. Bref, il n'y a aucun accord, indique Jean-Claude Juncker, le chef de file des grands argentiers de la zone euro. Les discussions sont reportées au mois prochain. L'Espagne qui rétablit l'impôt sur la fortune pour réduire sa dette, un impôt suspendu il y a 3 ans par le gouvernement Zapatero. Il est destiné aux 160 000 Espagnols les plus riches, selon Madrid. La mesure doit permettre de rapporter environ 1 milliard d'euros qu'il s'agit de financer les régions dont les comptes plombent ceux du pays. On va à présent à Cordoue, en Espagne, pour la suite des demi-finales de la Coupe Davis de tennis. Gilles Simon est opposé dans le deuxième match à David Ferrer. Fabrice Abdal, vous êtes en direct. Ça n'est guère plus facile que pour Richard Gasquet, battu tout à l'heure par Rafael Nadal.
Balayé même par Rafael Nadal. 6-3, 6-0, 6-1. Ça ne se présente pas très bien non plus.
plus pour Gilles Simon. Tout d'abord parce qu'il a perdu le premier set face à David Ferrer très sèchement sur le score de 6 jeux à 1. Ça va un petit peu mieux dans la deuxième manche. 3 jeux partout entre les deux joueurs, même si c'était mal parti pour Gilles Simon qui s'est fait breaker d'entrée. Mais il a réussi à reprendre derrière le service de David Ferrer. Depuis, aucun des deux joueurs n'a perdu sa mise en jeu. Mais c'est compliqué pour Gilles Simon parce qu'il a en face l'un des meilleurs spécialistes de la terre battue. Gilles Simon tente bien de rivaliser en fond de court, tente bien de soutenir l'échange face à David Ferrer, mais à ce petit jeu, bien David Ferrer possède un avantage considérable face à Gilles Simon, c'est-à-dire que David Ferrer a une marge de sécurité dans ce domaine beaucoup plus importante que Gilles Simon, et Gilles Simon commet beaucoup de fautes directes, il en profite d'ailleurs David Ferrer, mais là à l'instant même balle pour mener 4 jeux à 3 pour Gilles Simon qui est actuellement au service.
Merci Fabrice Abgal, on vous retrouve tout à l'heure en direct des arènes de Cordoue.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Cette semaine en direct du Livre sur la place à Nancy, en partenariat avec le quotidien Le Monde, Pierre Assouline, Vie de Job, chez Gallimard, et chez le même éditeur Carole Martinez, du domaine des Murmures.
Les liaisons heureuses, demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
16h04, bon après-midi sur France Inter, quand la musique donne. Bonjour Didier Barrault.
Merci Delphine, Simon. On vous retrouve à 17h peut-être. Absolument. Pour d'autres informations. Alors juste avant d'accueillir nos deux invités pour ce deuxième numéro de Quand la musique donne, Cyril Mokayesh et Bernard Lavillier sont déjà là. Le mix libre du mois de septembre pour se mettre en jambe à 16h05. Voici le premier grand disque de la rentrée, Evolo Love, signé François and the Atlas Mountains. De la pop de chambre magistrale, entre éléments liquides et envolée atmosphérique.
Suis-je un rêve dans lequel tu t'installes? Nous faisons le bal, nous baradons. Soyons les plus beaux, soyons.
Il fut l'homme qui a réussi à faire pleurer les machines dans les années 90. Le français DJ Cam, exilé volontaire à Los Angeles, revient avec un 7e album qui devrait remettre le trip-hop sur nos platines. Il s'appelle Sidney Vallet, cet ancien étudiant en philosophie débarque avec un premier album insolent et dissipé au titre rageur Plutôt mourir que crever.
Aujourd'hui c'est dimanche, ce soir je ne sors pas, je reste tranquillement à la maison et lis un livre. J'essaye de faire le vide dans mon esprit, une boîte de thé minceur en mangeant des légumes verts biologiques. Il s'agit de cesser toute activité et aborder ainsi le corps purifié de toutes les merdes qu'on a ingurgitées le vendredi et le samedi soir. J'en ai marre de ce temps divisé en moments d'activité, de repos, vacances, non vacances, travail, non travail, dimanche, non dimanche. Dimanche devrait être le jour, tous les jours devrait être, non, tous les jours, dimanche.
Un autre jeune français installé et reconnu aux États-Unis, Anthony Gonzalez et son groupe M83, revient avec un double album copieux qui oscille entre les pistes de danse et une pop introspective.
Thank you.
libre. À retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est parisien, il est stéphanois, ou presque, si l'on considère que Firminy est la banlieue de Saint-Étienne. Il aime le rock, il aime les horizons lointains. Il est né en plein milieu des années 80, au mois de mai. Il aime la terre battue, la poésie et les guitares qui saturent. Il est toujours large d'épaule. Il aime le monde, les aéroports où l'on croise les plus belles filles du monde, les gares, parce que les passagers ont toujours des trucs à raconter. Il aime lire Éluard ou Henry Miller. Il aime dire les mots de Blaise Cendrars ou raconter les vies de Joseph Kessel. Il est jaillissant de colère, il est amoureux.